it's chat been, for hours.
We could chat for hours. That was Panacea.
That was awesome. Thanks for having me.
Thanks for joining us, Ben, for sharing your wisdom. This is CKUT 90.3 FM, and I'll see you guys at from 5 to 6 p.m. today, but usually that's not a thing. And next month, we're going to have a segment on major depressive disorder to celebrate our one-year anniversary. Bye.
You're listening to CKUT. The following is a previously broadcast program. Stay tuned.
Florence Agathe Dubé-Moreau, autrice du livre Hors-jeu, tout juste paru aux éditions du Remis Ménage. Vous écoutez Les Beaux Sons avec Nathalie Dupalma sur les ondes du 92.3.
Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ce soir, nous avons la chance de recevoir Florence Agathe Dubé-Moreau. Elle vient nous parler de son premier essai hors-jeu, conçu en complicité avec son conjoint, le joueur de football Laurent Duvernay-Tardif. À partir de son expérience personnelle et d'une posture d'exception, elle déconstruit un à un les mythes entourant les femmes dans l'industrie du sport professionnel, en plus d'être une grande alliée de nos communautés LGBTQ+. Évidemment, je ne peux pas passer sous silence la triste nouvelle qui a secoué le Québec la semaine passée avec le décès de Carl Tremblay, chanteur des Cowboys Fringants. C'est pourquoi ce soir, on va lui rendre hommage en jouant les chansons du groupe et on revient avec notre invitée, Florence Agathe Dubé-Moreau.
Comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis, je te raconterai les souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque où vieillir était encore bien illusoire. Quand j'agaçais les petites filles pas loin des balançoires et que mon sac de billes devenait un vrai trésor. Ces hivers enneigés à construire des igloos et rentrer les pieds gelés juste à temps pour passe-partout. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. De la petite école et de la cour de récré. Quand les avions en papier ne partent plus au vent, on se dit que le bon temps passe finalement comme une étoile filante. Si je m'arrête un instant pour te parler de la vie, je constate que bien souvent on choisit pas mais on subit. Et que les rêves des ticus s'évanouissent ou se refoulent dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule. La trentaine, la bédaine, les morveux, l'hypothèque, les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs. Travailler, faire de son mieux, d'arracher, s'en sortir et espérer être heureux un peu avant de mourir. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de notre petit passage dans ce monde effréné. Après avoir existé pour gagner du temps, on dira que l'on était finalement des étoiles filantes. Comme ça, tranquillement, pas loin.
Pointe-du-Carré et Saint-Louis. C'est qu'avec toi je suis bien et que j'ai plus le goût de m'en faire. Parce que tu sais, voir trop loin, c'est pas mieux que regarder en arrière. Malgré les vieilles amertumes et les amours qui passent, les chums qu'on perd en brume et les idéaux qui se cassent. La vie s'accroche et renaît comme les printemps reviennent, dans une bouffée d'air frais qui apaise les cœurs en peine. Ça fait que si à soir t'as envie de rester avec moi, la nuit est douce, on peut marcher. Et même si on sait bien que tout dure rien qu'un temps, j'aimerais ça que tu sois pour un moment mon étoile filante. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester.
Notre invitée Florence Agathe Dubé-Moreau est autrice, chroniqueuse et commissaire indépendante en art contemporain. Formée en ballet contemporain, elle est titulaire d'une maîtrise en histoire de l'art. Son travail en commissariat et en critique d'art s'est vu récompensé de nombreuses fois et elle est également coprésidente de la Fondation LDT, dont la mission se déploie dans les écoles primaires du Québec. Elle est avec nous pour parler de son premier essai qui s'intitule « Hors-jeu », une chronique culturelle et féministe sur l'industrie du sport professionnel, paru le 24 octobre dernier. Un livre passionnant, porté par un regard lucide de l'intérieur sur cet univers méconnu. Bonsoir Florence Agathe Dubé-Moreau.
Bonsoir.
Sans trop savoir à quoi t'attendre, tu as été catapultée dans l'univers du sport professionnel lorsque ton partenaire de vie, Laurent Duvernay-Tardif, a été repêché par les Chiefs de Kansas City, une équipe dans la National Football League aux États-Unis. Et par le fait même, tu as eu le privilège d'expérimenter de l'intérieur la plus puissante ligue sportive au monde. Ton intelligence et ta perspicacité t'ont permis d'écrire un livre hyper pertinent sur le sujet. Qu'est-ce qui a déclenché ton envie d'écrire sur cette expérience?
Merci. Mon Dieu, tu me lances des fleurs. Merci, Nathalie. C'est gentil. écoute, vraiment, le déclic du livre, c'est comme tu dis, c'est d'avoir été parachutée dans cet univers-là, celui de la NFL, un univers que je connaissais pas du tout. Hein. C'est ça, moi, je suis historienne de l'art, je suis une personne féministe, puis là, je débarquais dans un univers qui m'était très étranger, un univers aussi, je pense que c'est important de le dire, c'est pensé par et pour les hommes et où les femmes ont une posture absolument marginale et très isolée, finalement. Et ce qui m'a vraiment frappée en débarquant comme ça dans la NFL, c'était finalement la très grande quantité de femmes que j'y ai découvertes, puis dont j'avais jamais entendu parler vraiment, ou quand j'en avais entendu parler, c'était assez mal. Et donc, j'ai été vraiment frappée par, premièrement, le nombre de conjointes de joueurs, mais aussi le nombre important de cheerleaders qui sont, des centaines de femmes employées par la NFL depuis des décennies. Et donc, ça a vraiment comme déclenché un peu la quête derrière le livre qui est de se poser la question, elles sont où les femmes dans le sport professionnel masculin? Parce que là, ça, c'était mon expérience à ce moment-là. Et donc, je fais une espèce de cartographie. Je parle de mon expérience de conjointe de joueurs. Je parle des cheerleaders, mais je parle aussi des arbitres, des coachs, des dirigeantes. Et donc, de toutes les femmes qui, travaillent dans le sport, qui le façonnent et qui, finalement, que je me rends compte au fil du livre, c'est qu'elles sont en train de le transformer aussi. Je pense qu'on vit un moment historique pour le sport en ce moment. Donc, c'est un peu ça le projet et le déclic du livre.
Et est-ce que tu avais en tête quelque chose de spécifique en l'écrivant, ce livre-là?
Mais je voulais vraiment mettre en lumière les femmes qui sont dans l'industrie du sport. Le livre est vraiment comme, tu sais, il y a bien sûr des bribes d'expériences que moi j'ai vécues. J'amène vraiment les gens, tu sais, dans les coulisses de la NFL. Mais l'objectif que je me suis donné avec l'écriture de ce livre-là, c'est vraiment de mettre en lumière les femmes dans le sport, de les célébrer, de célébrer leur apport, puis de démystifier, puis d'expliquer, c'est quoi toutes les barrières avec lesquelles elles doivent composer pour gravir les échelons dans cette industrie-là? Quels sont les stéréotypes avec lesquels elles doivent composer et déconstruire pour exister dans cet univers-là? Donc, c'est vraiment une volonté, d'une certaine façon, utiliser mon expérience personnelle pour finalement parler de toutes les autres femmes
femmes et aussi, je pense, d'une certaine façon, utiliser le privilège. Je pense que c'est important de le dire, l'immense privilège qui enveloppe les gens qui ont la chance d'accéder à la NFL, les joueurs, mais aussi leurs conjoints, les familles qui gravitent dans cette industrie-là. C'est un privilège qui est financier, c'est un privilège qui est social aussi. Et donc, d'utiliser un peu cette position-là pour parler de femmes dont on parle si peu. Parce que, tu sais, je veux dire, quand on regarde les chiffres de, bon, combien de temps d'antenne on réserve au sport féminin, où il y a combien de journalistes sportifs, où il y a combien de coachs et d'arbitres dans le sport et féminin et masculin, c'est absolument catastrophique. Donc, je voulais utiliser ma posture pour parler de ces enjeux-là puis donner la tribune aussi à ces femmes-là.
C'est ce qui fait que ton livre est vraiment passionnant, de combiner ton histoire personnelle avec des faits aussi que, j'imagine, sont dus aux recherches que tu as faites en écrivant ce livre-là.
Oui, ben j'ai travaillé comme un peu plus que 2 ans sur la recherche autour du livre, donc de vraiment fouiller l'actualité, des études, de sortir des chiffres, des statistiques. J'ai travaillé aussi avec une recherchiste spécialisée en sport pour m'aider dans des zones sur lesquelles j'étais moins solide, tu sais, parce que, bon, je parle de mon expérience au football, mais je mets l'industrie de la NFL en relation avec les autres grands sports qui constituent ce qu'on appelle le Big Four, qui est les 4 plus puissants sport dans le marché sportif, donc la NFL, la MLB au baseball, la NBA au basketball et la NHL au hockey. Et donc, je voulais m'assurer de pouvoir être solide sur toutes ces zones-là, étant donné que c'est pas nécessairement mon domaine d'expertise. Donc, j'ai vraiment fait un travail assez fouillé pour vraiment appuyer et, comme je disais, un peu dépasser cette espèce de portion plus autobiographique du livre, de pouvoir offrir un portrait réaliste de c'est quoi la situation du sport et de la place des femmes dans le sport maintenant, et surtout offrir des pistes de solutions aussi très concrètes. C'était tellement important pour moi de pas juste comme faire un portrait, mais aussi d'être comme, hey, il y en a plein de choses qu'on pourrait faire, le voici, plein d'idées.
Et de quelle façon cette expérience a changé ton regard sur l'impact du sport dans la lutte pour l'égalité entre les genres?
Oh mon Dieu, de tellement de façons. Je pense vraiment que je suis devenue une meilleure féministe à travers mon expérience. L'industrie du sport masculin, ça, c'est clair, clair, clair. Ça a été une expérience assez confrontante, d'un point de vue identitaire comme femme, d'un point de vue de valeur aussi. Puis justement, sur les questions d'égalité des sexes, des genres, ça a vraiment été quelque chose de très formateur, j'ai envie de dire, et qui m'a effectivement donné le goût d'écrire. Chaque... Ouais, mon Dieu, là, je m'écarte de ta question, mais pour le féminisme, ben, en fait, tu sais, bon, c'est sûr que moi, je pose un regard sur le sport qui est culturel. Tu sais, je viens du milieu culturel, je viens du milieu de l'art contemporain, donc je pose un regard qui est culturel. Puis j'ai envie d'inviter les gens à regarder le sport pas juste comme un reflet passif de la société. J'ai vraiment envie d'inviter les gens à voir le sport comme un producteur culturel. Donc, pas juste un produit de notre industrie culturelle, mais vraiment comme un producteur culturel. Parce que le sport, c'est une industrie qui produit des communautés, qui produit des identités, qui produit aussi des corps, littéralement. Tu sais, on façonne des corps avec le sport. Et à ce titre-là, je pense très intimement que le sport peut nous aider à produire une société plus juste, plus égalitaire, notamment sur la question des genres. Et c'est vraiment important de prendre la mesure de l'impact des images sportives. C'est le divertissement sportif, c'est immense dans notre industrie culturelle. C'est des images qui sont immensément consommées à chaque jour, à chaque semaine. Et à ce titre-là, à mes yeux, le sport a une responsabilité aussi, étant donné son importance dans notre culture visuelle. Puis, tu sais, quand je dis ça, je veux retourner aux chiffres parce que je veux dire, mon Dieu, les chiffres sont tellement troublants.
Oui.
Au moment d'écrire le livre, je me basais sur une étude qui a été faite dans les années 2010 qui prouvait que sur une chaîne sportive, on estime que 96% du temps d'antenne est réservé à montrer du sport masculin. Et on sait que, pourtant, 40 % des athlètes dans le monde seraient des femmes. Donc, qu'est-ce qui se passe entre le 40 % d'athlètes et le 4 % seulement qui leur reste?
C'est incroyable.
De temps de diffusion. Tu sais, je veux dire, le débalancement ici, pour moi, il est grave. Tu sais, c'est comme, ça envoie un message qui est tellement grave de, ben, on s'en fout de la moitié des athlètes et la moitié de l'humanité qui s'identifie comme femme, tu sais. Puis depuis la publication du livre, il y a quelques jours, il y a une nouvelle étude qui est sortie qui était très positive sur le fait que, ben, depuis les années 2010, il y a eu une grande amélioration de la place du sport féminin à la télévision, et en montrant que maintenant 15 % du temps d'antenne leur serait réservé.
Oh, wow.
Mais j'ai envie de dire, on est quand même dans un immense débalancement, là.
On passe de 4 % à 15 %
Ben, c'est ça, là, tu sais, écoute, je sais pas, là, mais je suis pas sûre que... On est loin de la zone paritaire, disons.
Absolument. Et est-ce que tu penses que c'est par un manque de volonté qu'on diffuse moins le sport féminin que le sport masculin?
Mais je pense que historiquement, c'est le sport, il faut se rappeler, c'est un esprit qui a été extrêmement discriminatoire. Puis moi, je parle d'une posture de femme, mais je veux dire, si on pense aux enjeux raciaux, si on pense à des questions d'inclusion des identités LGBTQ+, ou à des enjeux de capacitisme, tu sais, le sport, c'est pas une industrie qui est partie sur une base très ouverte. Tout le monde est le bienvenu, là. Et je pense qu'en fait, c'est ce que je dénonce dans le livre, c'est cette espèce de déphasage, finalement, anachronique d'une industrie qui, en ce moment, bénéficie d'un immense privilège à rester à ce point-là sexiste et discriminatoire pour un nombre important de communautés qui sont distinctes, différentes de l'espèce de case hyper étroite qui a été bâtie autour de l'athlète type ou du sport type et idéal. Et cette cause-là, j'ai aussi envie de dire qu'elle est discriminatoire pour plusieurs hommes qui ne s'identifient pas à ces codes-là. Puis, je veux dire, on le voit, la NFL, par exemple, je reviens à ça, dans l'histoire de la NFL, il y a eu un seul coming out de la part d'un joueur. Mais là, je m'excuse, là, mais à la quantité de gars qui jouent à des sports, je mets en doute ce pourcentage.
Exactement. Puis c'était en 2021. C'est Karl Nassib qui avait fait son coming out. Est-ce que c'est une situation qui a fait des vagues dans la Ligue? Est-ce que tu as eu connaissance de ça ou ça a été bien reçu?
Ben, je pense que forcément, ça fait des vagues de la même façon que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle femme qui est promue à un poste d'arbitre ou de coach ou de dirigeante, on fait un grand battage médiatique autour du fait que c'est la première, on la félicite, c'est incroyable. Bon, il y a des détracteurs, mais il y a aussi des gens qui sont hyper emballés de la nouvelle. Tu sais, j'ai l'impression qu'on est encore, malheureusement, dans un moment historique où ces personnes-là sont souvent seules. Tu sais, on est capable de les nommer par leur nom. On se rappelle de l'année où ils sont arrivés. Tu sais, c'est ça, la pression sur les épaules de ces personnes-là, elle est immense. Et souvent, c'est des personnes qui accèdent à des postes ou à une visibilité dans ces structures-là où elles sont finalement hyper isolées et hyper marginalisées. Et donc, d'une certaine façon, je veux dire, c'est ça, la pression, et même parfois, c'est des personnes qu'on met dans des positions très vulnérables aussi dans ces structures-là qui sont lentes à justement s'ouvrir et à être progressistes et vraiment inclusives, tu sais.
Absolument. Et est-ce que tu avais des appréhensions avant de te lancer dans l'écriture de ce livre-là?
C'est une bonne question. Ben, en fait, c'était vraiment important pour moi de pas attaquer ces femmes-là dans le sens où, tu sais, je l'explique dans le livre, tu sais, étant justement, tu sais, très extérieure à l'industrie sportive, moi, je suis arrivée puis j'ai été un peu comme chamboulée dans mon système de valeurs et de comment moi je m'identifie à la féminité, puis à mon rôle de conjointe dans un couple hétérosexuel, puis comment est-ce que je voulais m'inscrire dans la pression qui entourait les conjointes dans la NFL, parce qu'on vit une expérience qui est super unique, qui est vraiment spéciale, qui est encore une fois hyper privilégiée, mais elle est tellement rare qu'on se retrouve très seul dans cette expérience-là, puis on a juste l'une et l'autre pour se un peu se supporter là-dedans puis s'entraider. Et donc, moi, ce que j'ai découvert en intégrant un peu le cercle de ces femmes-là, conjointes de joueurs qu'on appelle les WAGs, que c'est le petit acronyme, là, Wives and Girlfriends, mais c'est des femmes, tu sais, qui ont une force, qui ont une puissance, qui ont une immense solidarité entre elles. Et même si à certains moments, j'avais des clashs de valeurs sur moi, comment je percevais mes rôles et responsabilités comme femme dans la société, ben même si on avait des clashs sur ce type de questions-là ou de visions-là, mais j'ai un immense respect pour elle, j'ai une immense admiration pour elle et j'ai énormément appris aussi sur des systèmes de valeurs plus traditionnels, plus près de la religion aussi que je connaissais pas. Et donc, je voulais pas que mes écrits puissent tomber ou verser vers la critique ou le jugement de ces femmes-là parce que au contraire, je pense que c'est des postures qu'on connaît très peu, qu'on connaît mal et c'est important pour moi d'expliquer c'est quoi le quotidien de ces femmes-là, de montrer justement les stéréotypes puis les barrières sexistes avec lesquelles elles doivent composer pour qu'on réfléchisse plutôt et qu'on puisse s'élever à un niveau peut-être plus de ligue et réfléchir à comment la NFL, dans ce cas-là, capitalise justement sur un système de valeurs plus traditionnel, plus patriarcal, et plus, oui, traditionnel sur la vision de la femme comme une personne qui, dans la cellule du couple, va être en soutien et en arrière du mari pour s'assurer de prendre toute la charge mentale, la charge des enfants, le soutien psychologique, le soutien médical, même quand les gosses se blessent. Et que finalement, elles sont complètement invisibilisées dans cette industrie-là qui les prend pour acquis. Et donc, c'est important pour moi de ne pas tomber dans un jugement de elles, mais de plutôt pointer vers une structure plus grande qui, encore une fois, anachronique et très injuste envers ces femmes-là. C'est comme la petite bombe que j'essayais de naviguer, là.
Oui, puis tu l'expliques très bien dans ton livre. Et contrairement à plusieurs femmes de joueurs, toi, tu as décidé de poursuivre ta carrière à Montréal et de voyager pour aller retrouver ton amoureux, ce qui engendre plusieurs sacrifices. Mais comment tu as réussi à t'adapter à cette réalité puis à ce regroupement-là aussi? Parce qu'il y a des femmes là-dedans qui ont des carrières aussi, mais qui ont décidé de les mettre de côté.
Mm-hmm.
Toi, est-ce que ça a été difficile de t'adapter à cette réalité-là? Nous, on a quand même un passé. Il y a eu un mouvement féministe fort au Québec. Tu t'es retrouvée quand même aux États-Unis, comme tu disais, avec une religion assez forte. T'es pas mariée non plus. Qu'est-ce qui était le plus confrontant pour toi dans ce regroupement-là?
Écoute, ce qui a été le plus confrontant... Mais je pense que finalement, je me suis jamais tout à fait adaptée à 100% à ce contexte-là. Je me suis construite, je pense, ma propre définition de ce que moi, j'allais être comme WAGS et d'accepter de pas être en parfaite adéquation avec cet univers-là puis de faire mon petit chemin là-dedans comme je pouvais. Donc, ça a été plutôt ça ma réponse à cet univers-là. C'est effectivement de trouver une façon de me faire une place qui me ressemblait davantage dans cette industrie-là. Puis je dis ça maintenant avec du recul, ça a été quand même assez confrontant. T'sais, la machine sportive, elle est très forte et elle tente très fort de nous mettre dans des moules. T'sais, encore une fois, bien sûr, il faut relativiser. C'est une industrie qui génère un immense privilège pour les personnes qui évoluent dedans. Mais là où j'en arrive un peu à la fin de cette aventure-là, c'est que j'ai envie de rêver à une NFL qui voudrait agir justement sur la pression qu'elle met sur les femmes qui font partie de ses rangs, parce que moi, je considère qu'elles font partie de l'aventure NFL au même titre que les gars, tu sais.
Ouais.
Et reconnaître l'existence de ces femmes-là, tu sais, dans le livre, je pointe vers des solutions comme un système de garderie ou de service de garde à hauteur de ligue pour venir soutenir ces familles-là. Je parle de primes de déplacement, par exemple, quand les conjoints doivent changer d'emploi parce que les gars sont échangés d'équipe en équipe. Je lève la question aussi du congé de paternité dans les ligues sportives. C'est tous des gars qui sont en âge de partir des familles et pourtant, il y a à peu près rien d'aménagé pour permettre ça. Et si ce type d'action-là était faite par la NFL, c'est bon, ça aiderait quelques centaines de familles qui sont dans ce réseau-là, mais il faut encore une fois s'élever à un niveau, je pense, encore plus haut et penser à l'impact culturel que le message que ça enverrait d'une ligue comme la NFL de reconnaître le travail de soutien, le travail invisible des femmes à la maison, en par exemple mettant un système de garderie pour montrer un exemple d'un geste qui instaure une égalité dans un noyau familial, ça, ça a le potentiel d'impacter des millions de personnes étant donné la puissance culturelle d'une ligue comme la NFL. Donc c'est là où, pour moi, le livre, c'est moins de donner des exemples précis ou de raconter comment moi je me suis sentie. C'est comme si j'utilise plutôt ces expériences vécues-là pour parler d'un niveau plus sociétal ou d'un niveau de responsabilité culturelle que l'industrie du sport a pour se montrer plus inclusive, plus progressiste, de nous amener vers des valeurs d'égalité et de justice sociale qui sont beaucoup plus en phase avec là où on veut que la société s'en aille en ce moment. T'sais.
J'espère que ton livre a été envoyé aux grands dirigeants de ces ligues du Big Four.
Ça serait le fun!
Ça serait génial qu'ils prennent le temps de le lire.
Qu'ils prennent des notes. Là. Je vais leur envoyer avec un surligneur. Là.
Il y a une chose qui m'a surprise, c'est que tu es en quelque sorte dans le garde-robe. J'utilise ce mot-là parce que quand j'ai lu ce passage-là, j'ai ressenti comme quand on ne veut pas dire à nos collègues de travail qu'on est gay ou lesbienne. Mais par rapport à ta relation avec Laurent, tu avais un peu peur des préjugés dans ton milieu de travail dû au fait que tu fréquentais un joueur de football malgré qu'il y a des études en médecine. Qu'est-ce qui te gênait dans le fait de sortir avec un joueur de football? Est-ce que c'était toute cette appréhension-là de ce monde-là?
Ben, je pense que j'avais les mêmes préjugés auxquels j'anticipais devoir répondre, en fait. Si je trouvais ça tellement cliché de sortir, tu sais, d'être une fille en or qui sort avec un gars capitaine d'une équipe de football, puis là, qui se ramasse dans NFL, puis écoute, je pense aussi que, tu sais, l'industrie sportive, justement, cette espèce de déphasage-là ou d'aspect un peu anachronique que je trouve que le sport a par rapport à des valeurs plus progressistes, tu sais. Je pense que ce sentiment-là, pour moi ou chez moi, il était amplifié par le fait justement que en art contemporain, tu sais, on est très branché et souvent un peu à l'avant-garde de certaines questions débattues dans la société, sur la place publique. Je veux dire, tu sais, l'art contemporain, pour moi, c'est vraiment une fenêtre sur le monde. C'est une façon de regarder le monde différemment puis d'apporter, justement, d'être toujours un peu comme proactif sur comment est-ce qu'on peut changer le monde, apporter des pistes de solutions différentes sur la société dans laquelle on vit. Tu sais, par exemple, pour moi, c'est via l'art contemporain que j'ai appris sur tellement de conflits de situations à travers le monde ou sur des questions comme l'autochtonie, par exemple. Tu sais, c'est... Pour moi, c'est comme une industrie qui a plein de défauts et de failles encore, mais qui est quand même dans une démarche ou dans une volonté de toujours être très branchée à la prochaine étape. C'est où est-ce qu'on veut s'en aller? Où est-ce qu'on veut rêver que la société s'en aille? T'sais? Donc, pour moi, je pense que le fait que le sport se cantonne dans une espèce de privilège, c'est de vraiment le cliché du boys club, de comme une gang de gars blancs, hétéros, assis autour d'une table, qui décident puis qui gardent le pouvoir parce que, ben, juste parce qu'ils l'ont toujours eu puis ils n'ont absolument pas besoin de changer un système qui les avantage. Mais pour moi, tu sais, il y avait vraiment comme quelque chose de presque irréconciliable. Tu sais, puis j'en parle dans le livre, c'est une des grandes questions qui m'a habité au début de, disons, l'aventure NFL de Laurent, c'était est-ce qu'une personne féministe peut être en couple avec un joueur de football s'il y a un tel clash de valeurs? C'est comment, où est-ce qu'on se rencontre là-dedans, tu sais? Puis j'ai l'impression que la question, après presque 10 ans maintenant, tu sais, c'est moins oui ou non le football de manière radicale pour moi. C'est OK le football, tu sais, je pense pas que je vais régler ça à moi toute seule. OK, le football existe, mais comment est-ce que cette industrie-là, plus largement, comment est-ce que le sport masculin doit se responsabiliser et doit s'inscrire dans la société?
Oui, parce qu'ils ont tellement de pouvoir que ça peut vraiment être un vecteur de changement s'il y avait une volonté du Big Four, de ces quatre grandes ligues-là, de faire des changements. Il y aurait quelque chose à faire là.
Mais absolument. Puis, tu sais, tantôt, je disais c'est important pour moi d'apporter des pistes de solutions ou de montrer des exemples positifs qui donnent de l'espoir. Tu sais, j'arrive à la fin de ce processus d'écriture-là, puis d'enquête, puis de recherche autour du sport, en constatant à quel point, dans les dernières années, le plus grand travail de mise à niveau du sport a été fait par des femmes. tu sais, moi, je l'ai vu de mes yeux vus, là. Je veux dire, c'est tellement récent comme histoire. Tu sais, les premières arbitres ou coachs dans la NFL et dans les grandes ligues du Big Four, c'est 2014, 2015. Au football, là, puis au hockey, on parle de 2022, 2020 pour les premières, mettons, directrices générales adjointes ou les premières présidentes. Tu sais, c'est tellement récent. Et ça, c'est du point de vue de les postes à responsabilité dans l'industrie masculine. Mais si on tourne du côté des athlètes féminines, c'est le travail de mise à niveau pour les questions de discrimination salariale, les questions de régime de congé parental, la mobilisation pour contrer l'homophobie ou la transphobie dans le sport. Mais elles ont été portées par des femmes athlètes ou par des organisations sportives féminines dans les dernières années. Puis c'est des personnes qui se sont mobilisées pour bâtir un futur inclusif en prenant pour acquis le pouvoir de catalyseur de changement que le sport peut avoir pour une société. T'sais. Puis on peut penser à des ligues comme la WNBA au basketball féminin ou la NWSL au soccer féminin. C'est des personnes qui sont hyper vocales et font des actions très concrètes, entre autres dans les communautés LGBTQ, et qui mobilisent autour de ces équipes-là, de ces clubs-là, ces communautés-là. Puis c'est tellement puissant, le message est tellement puissant et ça fonctionne. On est dans un moment où on voit dans les derniers mois des records d'auditoires à la télé, des records de vente de billets. Les franchises prennent une valeur immense en ce moment. Tu sais, il y a vraiment un vent de changement. Puis moi, ce que je constate, bien, c'est que ce travail-là, il a été fait par des femmes ou des personnes qui s'identifient comme femmes à une vitesse infiniment plus rapide que celle des clubs masculins ou au contraire, mon Dieu, il y a genre quoi, il y a même pas un mois ou un mois et demi, la NHL annonçait qu'il bannissait le jersey en soutien aux communautés LGBTQ oui. pendant les matchs. Plus finalement, ils ont genre toléré des bouts de tape, ces bâtons. C'est comme, t'en es gênant, là. T'en es gênant. Tu sais, c'est non seulement t'es en retard, mais en plus, tu fais du mal, là. Tu fais du tort.
C'est ça. On va poursuivre en musique et on revient avec notre invité.
Tu te souviens de ce temps où la vie te semblait plus sweet? Tout ça fait déjà un moment. Des fois on perd le beat. Quand pour fortune t'avais 30 sous et que le bonheur tenait dans ta poche, c'était bien avant de comprendre que tout tient avec la broche. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver. Ensemble, on n'a peur de rien. Dis-toi que ce soir, ma blonde, t'es pas seul au monde. Ici-bas, quand on est cop, ça a l'air qu'on apprend de la souffrance. C'est sûrement rien que la psychopop, qu'au fond rien n'a de sens. Mais ce soir, je l'ai vu, le mouchoir de larmes dans ta poche. J'aime pas ça, savoir que tu tiens avec la broche. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver. Ensemble, on n'a peur de rien. Dis-toi que ce soir, ma blonde, t'es pas seule au monde. On vieillit, les années passent, et chacun de nous fait comme il peut. On court, on tombe, puis on se ramasse. Essaie d'être heureux. Toute une vie à patcher les trous du temps qui s'enfuit. la broche. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver. Ensemble on n'a peur de rien. Dis-toi que ce soir ma blonde, t'es pas seul au monde.
Nous sommes de retour avec Florence Agathe Dubé-Moreau, autrice du livre Hors-jeu. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas des femmes qui ont essayé. Tu sais, il y en a des femmes qui étaient surqualifiées même, puis qui n'ont pas réussi à percer à cause de la pression justement des hommes.
Ouais.
C'est quoi les différents profils de femmes qui œuvrent dans le sport masculin, puis c'est quoi leurs conditions?
Oui, c'est tellement une bonne question. C'est vraiment quelque chose que j'ai voulu approfondir puis dresser un portrait. Puis justement, c'est intéressant ce point-là parce que, tu sais, le livre est vraiment divisé entre différents profils de femmes. Puis certaines personnes m'ont dit « Ah, pourquoi t'as pas juste fait un livre sur ton expérience comme, tu sais, conjointe de joueur? » Mais parce que j'avais envie d'utiliser justement ce privilège-là pour amener les gens à lire le livre, oui, et parler de toutes ces autres femmes-là, parce que je suis pas sûre que tu aurais lu un livre sur les arbitres, là.
Non, c'est
mais
ça.
Bref. Mais, fait que oui, je trace un peu le portrait de comment est-ce qu'on fait pour accéder aux ligues masculines quand on est une femme. Puis, pour les coachs, les arbitres, le travail et le chemin est tellement long. Puis, tu sais, c'est une chose, justement, où la recherchiste m'a aidée. On a vraiment, comme, dressé le portrait. Bon, c'est quoi le profil type? C'est quoi les étapes? Qu'est-ce qui se passe? Puis, ce qu'on a été capable de dégager, c'est à quel point ces femmes-là sont souvent surqualifiées. Elles ont souvent plus d'études, plus d'expérience. Ensuite, elles gravissent chacun des échelons qui sont assez définis, là, à la fois pour coach et arbitre en termes de progression. C'est assez encadré par les ligues, par les sports. Alors que, par exemple, un homologue masculin, mettons, on dit, il passerait 3 ans dans tel échelon, puis ensuite passerait au suivant, et dans le suivant, il passerait 5 ans. Les filles bossent constamment.
C'est incroyable.
C'est une espèce de braquette de nombre d'années minimum ou maximum que tu dois passer dans ces braquettes-là. Ensuite, elles sont toutes, et ça, j'ai trouvé aucun contre-exemple de ça, elles sont toutes engagées comme stagiaires, souvent non rémunérées, avant de pouvoir espérer un poste dans les ligues mineures ou majeures, alors que c'est loin d'être le cas pour leurs homologues masculins, qui souvent sont engagés sans même avoir eu une expérience préalable, sans passer par l'étape du stage. Donc, c'est une panoplie comme ça d'embûches systémiques, finalement, où on voit que leur progression est lente dans les structures, que leur accès aux promotions ou aux recommandations pour passer aux échelons suivants ou aux jobs est plus lente et plus compliquée. Elles ne peuvent pas compter sur le même réseau non plus de contacts que les gars parce que malheureusement, en ce moment, ces femmes-là n'ont pas accès à des options professionnelles équivalentes dans ces sports-là. Je veux dire, la NFL au féminin, ça n'existe pas. T'sais. Donc, elles partent avec aussi, disons, un pas derrière, un pas de recul sur leurs homologues masculins. Donc, dans le livre, j'énumère et j'illustre tout ça, puis j'en viens à certaines solutions ou certaines pistes qui pourraient améliorer ces parcours interrompus aussi, parce que souvent, elles arrivent au dernier échelon, puis juste avant d'avoir un job, tout d'un coup, elles sont coupées, elles sont remerciées sans plus d'explications. Et pour contrer un peu tout ce déphasage-là, encore une fois, mais si je parle de, bon, qu'est-ce qu'on voit comme effet pour les programmes de développement en ce moment, les quotas d'embauche, les quotas d'entrevue, les méthodes de recrutement aussi des femmes, par exemple, à la balle molle, au flag football, au rugby, d'aller chercher des femmes qui jouent à des sports similaires à de très hauts niveaux pour les amener vers la NFL, la MLB. Donc, comment est-ce qu'on fait pour les recruter et faire en sorte que, justement, si plus de femmes sont recrutées, plus de femmes entrent dans les programmes de formation, bien, elles sont protégées aussi par le pouvoir du nombre. Parce que sinon, on est encore dans une logique où ces femmes-là sont hyper marginalisées, hyper isolées, et elles doivent se battre contre un système, encore une fois, qui n'a jamais été pensé pour elles, où les standards ont été établis par les gars. Puis c'est à elles de trouver une façon de rentrer dans la case. Et c'est juste, je veux dire, c'est textbook des embûches qui sont systémiques et c'est très long à déconstruire, c'est ça. Et donc, la pression sur ces femmes-là, elle est immense et elles n'ont pas tant de marge d'erreur non plus parce que, comme je disais, elles n'ont pas toujours le réseau pour rebondir si elles sont coupées versus leurs homologues. Donc, c'est un problème, un enjeu qui est vaste, qui est complexe, mais qui peut être, disons, amélioré et contourné avec des actions vraiment concrètes qui sont urgentes d'appliquer, là.
Puis, on en apprend beaucoup sur le métier des cheerleaders dans ton livre et c'est vraiment révoltant, faut le dire. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire à ce sujet-là?
Ben oui, le chapitre sur les cheerleaders, écoute, c'est vraiment un univers fascinant. Là. Moi, j'ai dit d'emblée dans le livre, tu sais, je portais un regard qui était encore une fois, qui avait certains préjugés contre ces athlètes-là. Tu sais, je voyais seulement tu sais, des femmes justement qui étaient un peu utilisées comme des distractions presque sur le terrain, puis qui étaient sexualisées dans un contexte de sport masculin. Puis je me suis donné le défi de comme apprendre à mieux comprendre ces athlètes-là, puis à comprendre aussi dans quel type de contexte elles s'inscrivent. Donc, ce que je raconte dans le livre, c'est fait, encore une fois, avec immensément d'admiration, de respect. Tu sais, je mets vraiment l'emphase sur le fait que c'est des athlètes incroyables, c'est des athlètes qui ont performé au plus haut niveau universitaire de compétition et qui ensuite n'ont souvent pas d'options professionnelles, elles n'ont plus. Et les seules options pour continuer à faire du cheerleading de haut niveau, mais c'est les ligues professionnelles qui emploient des clubs de cheerleading. À leur côté, il y a beaucoup aussi de danseuses professionnelles qui prennent ces contrats-là parce que, bien sûr, c'est danser devant des stades de 80 000 personnes dans des styles variés avec un haut volume d'entraînement. C'est des contrats qui durent à peu près 6 mois par année, donc qui peuvent bien se combiner aussi avec d'autres contrats en danse. Donc, c'est ça. Moi, j'ai vraiment appris à apprécier le fait qu'il faut les considérer comme des athlètes à part entière, elles aussi, sur les terrains, les jours de match. Et ce que je décortique ou ce que je dresse comme portrait aussi dans ce chapitre-là, c'est tout le courage que les cheerleaders de la NFL ont eu dans les 10 dernières années pour dénoncer le contexte de travail dans lequel elles s'inscrivent.
Oui.
Donc, je pars des années 2014, autour de 2014-2015. Je commence avec les premières poursuites qui ont été intentées contre les équipes de la NFL pour dénoncer les conditions salariales, donc des cheerleaders qui dénonçaient le fait qu'elles n'étaient pas payées pour toutes les heures travaillées, qu'elles n'étaient pas payées au salaire minimum, dans certains cas, dans l'État où elles travaillent, et pour d'autres qui dénonçaient ne même pas être rémunérées du tout. Et dans l'après-coup MeToo, donc autour de 2017-2018, il y a une nouvelle vague de poursuites qui a émergé dans la NFL de cheerleaders contre les clubs qui dénonçaient cette fois-ci des conditions de travail où il y avait des cas de discrimination, de harcèlement et même de violence sexuelle sur le lieu de travail. Donc, des femmes qui ont mené ce combat-là contre un géant, on va dire, et qui ont travaillé très fort pour être rémunérées rétroactivement, pour être protégées. Et tu sais, on s'entend, on parle de la base, on parle d'être payé et d'être en sécurité sur son lieu de travail.
C'est ça.
C'est assez de base.
Ouais. D'ailleurs, j'aimerais que tu nous parles du seul danseur gay des Chiefs de Kansas City qui laissait entrevoir un peu d'espoir quant à cette discipline. Est-ce que sa présence a réussi à faire avancer la cause des cheerleaders, selon toi?
Mais je pense que oui, puis je pense que même plus largement, ça participe à faire avancer la visibilité, la représentation des communautés LGBTQ dans le sport professionnel. Puis, tu sais, tantôt, on parlait des arbitres puis des coachs. C'est aussi des femmes, des personnes non-binaires qui prennent ces postes-là et qui disent publiquement appartenir aux communautés LGBTQ. Et ça, c'est tellement puissant, encore une fois, et c'est tellement courageux aussi dans ce type d'industrie-là, c'est de prendre cette place-là, de revendiquer cette parole-là, mais disons, la diversité LGBTQ, elle nous parvient en ce moment non pas des joueurs, mais plutôt des arbitres, des coachs, et très nouvellement de la part des cheerleaders. Donc, une des réactions, en fait, que ça a provoqué les poursuites que je décrivais, c'est une espèce de remaniement à l'interne des équipes des clubs de cheerleading. Et une des actions qui a été faite, ça a été de réinstaurer des équipes mixtes dans les clubs. Et c'est une décision qui peut être débattue. Je pense que dans certains cas, ça n'a pas toujours été fait pour les bonnes raisons, je pense qu'il faut le dire. Mais ce que ça a ouvert comme possibilité, c'est d'embaucher des hommes qui occupent deux types de postes qui sont soit des bases, donc qui font du cheerleading de compétition plus acrobatique, ou qui sont embauchés comme danseurs à part entière et donc qui, par exemple, font les exactement mêmes chorégraphies, qui, dans certains cas, portent les pompons, qui, dans d'autres cas, se maquillent et ont des costumes plus proches de celui des femmes. Donc, c'est un potentiel de résistance pour moi qui est immense pour la question de la représentation, pour la question aussi des stéréotypes qui entourent la masculinité dans le sport en général, chose qui, ma foi, n'est absolument pas explorée par la NFL en ce moment. Et ça ouvre cette possibilité-là. C'est absolument, en tout cas, moi, je trouve que ça a un potentiel révolutionnaire. C'est vraiment... Mais encore une fois, c'est porté par des individus qui sont assez... isolés et marginalisés aussi dans ces postures-là, qui le font avec un immense courage, en sachant, tu sais, je veux dire, même comme conjointe, tu sais, en sachant à quel point on peut se mettre dans une position, je pense, vulnérable à un grand backlash quand on évolue dans une industrie où, disons, le fan base est pas toujours vendu à certaines causes ou à certaines idées féministes ou LGBTQ. Et donc, tu sais, moi, je trouve que c'est, il faut souligner que, disons, le vernis de progressisme que ça peut envoyer, le message que ça peut envoyer, mais il est porté et il est amené par des personnes extrêmement courageuses aussi. En tout cas, moi, comme femme et comme conjointe, j'ai vécu tellement de backlash. Et là, maintenant, dans les 2-3 dernières semaines, avec toute la promo qui entoure le livre, je vis tellement de backlash d'un certain, disons, auditoire masculin assez, stéréotypé d'une certaine masculinité, j'ai envie de dire. Et donc, je veux même pas imaginer quand tu t'exposes au milieu d'un terrain de football. En tout cas, moi, je salue ce courage-là. C'est tellement un travail qui est important. Et en même temps, encore une fois, j'ai envie de remonter au niveau de la Ligue, c'est qui doit être mieux protégé par la Ligue, par des actions qui rémunèrent correctement ces danseurs et danseuses-là, qui les protègent sur leur lieu de travail correctement. C'est qu'il ne faut pas seulement des personnes courageuses et des femmes. C'est courageux qui acceptent des postes à responsabilité dans ces industries-là. C'est bien de les mettre en valeur, de leur donner cette visibilité-là, de les mettre en lumière. Mais il faut aussi s'assurer qu'on fait évoluer les structures autour de ces personnes-là pour pérenniser leur présence, en faire venir d'autres et les protéger dans ce contexte-là qui est souvent très hostile parce qu'il n'a jamais été pensé pour ces personnes-là.
Absolument. Dans ton livre, tu dis qu'à ce jour, il y a seulement 3 officiels actifs dans la NFL sur 120 arbitres et 8 dans la NBA sur plus de 70 arbitres. Les femmes qui sont rendues à ce stade-là insistent pour ne pas qu'on leur rappelle leur genre souvent en souhaitant être égales à leurs collègues masculins. Et comme tu le soulignes dans ton livre, qu'est-ce qu'il faut penser de l'effacement de leur identité de femme?
Je le dis dans le livre, c'est quelque chose qui me confronte beaucoup. J'ai de la difficulté à bien cerner pourquoi. Et malheureusement, je pense que ça fait une boucle avec la réponse précédente. Et je pense qu'il faut se rappeler à quel point ces femmes-là sont isolées, sont marginalisées, sont dans un contexte qui n'est pas toujours sécuritaire pour leur identité non plus dans ces structures-là. Mm-hmm. La nouvelle diversité dans les grandes ligues, c'est tellement récent que c'est pas encore, j'ai envie de dire, tant que ça, effectif dans le bureau, dans leurs collègues, tu sais. Donc, il faut, je pense que ça revient à cette question-là de, mon Dieu, j'ai quasiment envie de dire de survie ou de préservation de soi à un certain point, tu sais. L'intersection femme et coach ou femme et arbitre est pas encore super sécuritaire dans l'industrie sportive dans laquelle on vit ou celle qu'on voit. Et c'est là aussi où il faut se responsabiliser, se mobiliser comme spectateur, spectatrice, mais aussi au niveau des ligues, des partenaires et des instances politiques à justement mettre en place les structures, les systèmes qui favorisent un sport qui est plus égalitaire, qui est plus inclusif réellement et qui protège toutes les personnes qui en font partie.
Et pour revenir aux cheerleaders, dans les dernières années, il semble y avoir une plus grande ouverture pour les hommes issus de la communauté LGBTQ+. Puis en 2022, il y a Justine Lindsay qui devient la première danseuse ouvertement trans dans la NFL.
Oui, c'est c'est là aussi où rêver un sport plus juste et égalitaire, mais pour moi, ça passe par la conviction qu'inclure des perspectives féministes et des perspectives queer dans l'analyse du sport, mais ça va nous permettre de déconstruire aussi certains stéréotypes puis d'ouvrir à justement plus de représentativité, mais aussi à un sport qui nous envoie une réflexion plus juste des communautés qui constituent la société, mais qui nous permet aussi de dépasser certaines versions plus toxiques ou viriles de la masculinité et plus stéréotypées, clichés des féminités qui vont nous permettre aussi d'inclure une discussion autour des identités trans et non-binaires pour éviter tellement de souffrances, de solitude et de violence, encore une fois, que toutes les personnes qui se situent sur les pourtours, finalement, de l'espèce de case hyper précise de l'athlète masculin idéal qui va nous permettre de dépasser ça, puis d'arriver à un sport qui fait plus de bien que de mal, finalement, à tellement de communautés en ce moment.
Même toi, juste en parlant de toutes ces problématiques-là, j'ai vu, je pense que c'est passé au 98.5 avec Patrick Lagacé, puis on reçut des commentaires sur le fait que t'es féministe. C'est quand même incroyable en 2023 de vivre ça.
Ouais.
Je sais pas comment tu reçois ça. Il a quand même pris le temps de faire un segment pour parler à ses auditeurs.
Oui, ben. En fait, je pense que comme le backlash autour des questions de féminisme, d'inclusion dans le sport en ce moment, il revient encore une fois à la définition tellement étroite qu'on a du sport,
oui.
Puis du privilège du sport aussi, à rester collé à un pouvoir qui est masculin, qui est blanc, qui est hétéronormatif. Et toutes les personnes, dont les conjointes de joueurs, dont les cheerleaders, dont toutes les personnes des communautés LGBTQ+, n'importe qui déborde ce cadre du pouvoir sportif en ce moment est exposé à du backlash, tu sais. Puis malheureusement, c'est ça, ça parle aussi de comme certaines réticences d'un certain auditoire à ne pas vouloir rénover le pouvoir que le sport a en ce moment. Puis pour moi, en tout cas, je refais des boucles sans cesse, mais ça me ramène à l'importance et la responsabilité pourtant que le sport, à mes yeux, a de se mettre en phase avec la société, parce que c'est inacceptable que à chaque fois qu'on ouvre un poste sportif, on voit des gars jouer, que ça soit des gars qui commandent d'autres gars, que la seule option professionnelle pour les filles en ce moment qui jouent à un des quatre grands sports, ça soit qu'il y en ait une seule, puis que ça soit la Ligue de hockey qui a été créée il y a genre 2 mois, puis qui a même pas commencé à jouer. C'est-à-dire, en ce moment, la réalité, c'est que les femmes, les personnes qui s'identifient comme femmes, n'ont pas les mêmes options professionnelles que les hommes et donc n'ont pas les mêmes droits. Puis ça, pour moi, c'est un enjeu de société. C'est un enjeu aussi de rêve. Hein? Elles n'ont pas les mêmes rêves. On vit dans un moment où des petits gars et des petites filles ne peuvent pas rêver aux mêmes choses quand elles rêvent ou ils rêvent à une carrière dans le sport. Puis c'est là où moi, je débarque.
Ouais.
J'ai envie qu'on se fâche tout le monde ensemble. Parce que c'est un enjeu de société, c'est même un enjeu de santé publique. Tu sais, il y a quelques semaines, il y a des nouvelles études qui montraient à quel point les jeunes filles ne sont pas actives suffisamment selon les normes d'activité physique qu'elles devraient faire dans une semaine, dans une journée même. Et une des pistes de solution à ça, c'est de leur montrer des modèles inspirants à la télé, tu sais, ou de leur montrer qu'elles peuvent gravir les échelons dans une organisation sportive ou qu'elles puissent se projeter finalement.
Ouais.
Ça, c'est une des premières solutions qui est apportée. Et c'est tellement accessible. C'est tellement accessible. Je veux dire, les chiffres sont tellement épouvantables en ce moment que, je veux dire, on ne peut que s'améliorer.
Exactement. Ça commence seulement à changer, puis il y a encore tellement de chemin à faire. Est-ce que le conjoint de Carl était le bienvenu parmi les WAGs? Est-ce que ça tenait, avec vous autres?
Ah, ben là, malheureusement, je ne l'ai jamais rencontré. Ben, c'est ça, en fait, je parle tout le temps de conjointe de joueurs parce que malheureusement, avec un seul coming out, on n'a pas eu un grand bassin d'homologues masculins, malheureusement. Mais oui, bien sûr, ça serait extraordinaire, en fait, si on puisse arriver à un moment où ça soit les conjoints et conjointes de joueurs. C'est exceptionnel.
Puis ça, ça ferait peut-être aussi changer des choses, comme tu disais tantôt, parce que les couples homosexuels ont aussi le droit d'avoir des enfants, fait que le projet de garderie pour les joueurs, c'est quelque chose qui viendrait en aide à tout le monde, finalement, si c'était plus inclusif.
Ben oui, tellement. Tellement, puis on l'a vu, hein, c'est la NWSL au soccer américain féminin ont instauré là un régime de congé parental. C'est du jamais vu, c'est genre 6 mois de congé rémunéré avec de l'aide sur la route quand les filles sont en déplacement, puis ça couvre autant les congés de maternité que les congés adoptifs aussi. C'est révolutionnaire, là. C'est possible. C'est juste qu'il faut prendre la décision que collectivement, c'est ça qu'on veut que le sport reflète comme société, comme projet de société.
Oui. Après avoir lu ton livre, j'ai été habitée pendant des jours sur ce que j'ai appris en le lisant et aussi par ton histoire personnelle et ta façon d'analyser ce que tu as vécu. Quel est le plus beau souvenir que tu gardes de cette grande aventure?
Ben, c'est la solidarité entre femmes. Définitivement. C'est la puissance de ces femmes-là d'exister coûte que coûte dans une industrie qui les prend absolument pas en considération. Puis c'est la force de toutes les professionnelles du sport puis de toutes les athlètes féminines qui en ce moment sont en train de changer le sport. Et je termine l'aventure du livre avec la conviction que le sport de demain, il est porté par les femmes, il est féministe sans aucun doute. Et ça, c'est grâce au travail puis au courage des femmes qui sont en train de le changer. Et c'est pour ça aussi qu'on doit se mobiliser pour les aider parce qu'elles pourront pas y arriver seules.
Florence Agathe Dubé-Moreau, merci d'avoir écrit ce livre extrêmement pertinent et j'espère qu'on aura donné envie à plusieurs personnes de se le procurer et que ça fera changer plusieurs mentalités. Un grand merci d'avoir pris le temps de nous rendre visite.
Un grand plaisir. Merci beaucoup.
Merci à toi. Merci encore à notre invitée Florence Agathe Dubé-Moreau. On aurait pu parler pendant des heures de tout le contenu de son livre Hors-jeu. Je vous invite à vous le procurer pour en apprendre plus sur la place des femmes dans le monde du sport professionnel, mais aussi sur les femmes qui ont réussi à faire leur place dans ce monde d'hommes. Prenez soin de vous. Bonne fin de soirée.
Encore un jour à se lever, en même temps que le soleil, la face encore un peu poquée, mon 4 heures de sommeil. Je tire une coupe de pof de clope, job done pour les vitamines, puis un bon café à l'eau de mop, histoire de se donner meilleure mine. Yeah. J'prends le Florida Turnpike, demain soir j'suis à Montmagny. Non, Trucker, c'est pas vraiment une Klondike, mais tu vois du pays, yeah. Surtout ça te fait réaliser que derrière les beaux paysages, y a tellement d'inégalités et de souffrances sur les visages. La question que je me pose tout le temps, mais comment font tous ces gens pour croire encore en la vie dans cette hypocrisie? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Dans ma remorque, tous les excès de mon époque, la surabondance surgelée, shootée, suremballée, yeah. Pendant que les vœux pieux passent dans le beurre, que notre insouciance est repue, c'est dans le fond des containers que pourront pourrir les surplus. La question que je me pose tout le temps, mais que feront nos enfants quand il ne restera rien que des ruines et la faim? C'est si triste que des fois, je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Sur l'Interstate 95, partent en fumée tous les rêves, un char en feu dans une bretelle, un accident mortel, yeah. Et au milieu de
ce bouchon. Pas de respect pour la mort, chacun son tour joue du klaxon, tellement pressé d'aller nulle part. La question que je me pose tout le temps, mais où s'en vont tous ces gens? Il y a tellement de chars partout, le monde est rendu fou. C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison, puis que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétroviseur. Un autre truck stop d'autoroute, pogné pour manger de la chenoute. C'est vrai que dans la soupe du jour, y'a plus tellement d'amour, yeah. On a tué la chaleur humaine avec le service à la chaîne. À la télé, un autre malade vient déclencher une fusillade. La question que je me pose tout le temps, mais comment font ces pauvres gens pour traverser tout le cours d'une vie sans amour? C'est si triste que des fois, quand je rentre à la maison et que je parque mon vieux camion, je vois toute l'Amérique qui pleure dans mon rétro. Que moi aussi, quand je roule tout seul dans la nuit, je me demande des fois ce que je fous ici, pris dans l'arrière-pays, yeah. Je pense à tout ce que j'ai manqué avec Mimi pis les deux filles, et j'ai ce sentiment fucké d'être étranger dans ma famille. La question que je me pose tout le temps, pourquoi travailler autant, éloigné de ceux que j'aime, tout ça pour jouer la game. C'est si triste que des fois, je suis loin de la maison, assis dans mon vieux camion. J'ai toute l'Amérique qui pleure, qui part au fond du cœur.
Cœur à cœur avec toi, CKUT
90,3 FM.
CKUT, heart to heart with you.
Funky Revolutions, funky.
Funky Revolutions, funky.
Yeah, yeah, yeah.
Funky Revolutions,
whoa,
funky.
Yeah, yeah, yeah.
Funky Revolutions, funky.
You are listening to Funky Revolutions.
Uy, silhouette. Aïe.
For your mind and for your hip, this is the Mothership's cassette archives. 25 years of Funky Revolutions. A chance to hear some of the musicians, interviews, and series that have marked 25 years of discovery on the flight of the Mothership with host Khalid. On this week's episode, Hip Hop Elements. First, an interview from September of 1995 with Rubadoid Band, featuring then a 13-year-old DJ A-Track and his brother Dave One. In a second part, two interviews, or at least parts of interviews, done with Chaos. First, in the spring of 2002 for